LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Parmi les grandes incohérences de ma vie, je suis une serial marieuse. Je me suis paxée deux fois et mariée deux fois, bref, je suis passée quatre fois en mairie. Et pourtant, en tant que bonne féministe, je suis pour l'abolition du patriarcat. La logique voudrait que je sois contre le mariage, qui est une institution qui enferme les femmes. Et pourtant, franchement, l'union libre, ben, ça me fait pas rêver. Moi, j'ai besoin d'engagement, j'ai besoin de symboles. Et c'est plus fort que moi, je peux pas m'empêcher d'y retourner. Alors que je sais d'avance que je vais être perdante.
Consentez-vous à prendre ce monsieur pour époux ?
C'est officiel, là. Réfléchissez.
Oui.
Et consentez-vous à prendre 4 pour épouse ?
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie, avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Épisode 3, pour une nuit ou pour la vie ? Toi et moi, on va pas se marier, et puis moi je me suis déjà mariée 50 fois, et puis on n'a pas pour projet de se marier. Même si on était amoureux, je pense pas qu'on aurait pour projet de se marier, de toute façon. Toi, a priori,
moi,
étant anarchiste, voilà, tu es contre le mariage, donc de toute façon, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été réconciliable. Mais finalement, comment est-ce qu'on fait pour s'engager ? Puisque dans le couple, il y a quand même cette idée d'engagement, mais d'engagement presque mystique, l'un vis-à-vis de l'autre.
Attends, d'abord, pourquoi tu t'es mariée, toi ?
Tancrède Ramonet.
Parce que je te rappelle que normalement, toi aussi, tu es censé être anarchiste ou d'ultra-gauche.
Puis moi, je suis multi-mariée en plus et multi-divorcée. Et ça fait partie peut-être des grandes contradictions. Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui croit encore justement en l'engagement. Il y a deux choses qui se mélangent en fait. Il y a l'engagement, ça c'est une chose, le côté amour inconditionnel, je t'aime peu importe que tu prennes 10 kilos, que t'en perdes 10, que voilà, il y a cette idée d'amour inconditionnel dans l'engagement qui est beau, mais il y a aussi cette idée de la reconnaissance sociale du couple, c'est-à-dire officialiser, dire vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autres, voilà, ce couple-là existe, reconnaissez-le comme tel. Et c'est vrai que le mariage, c'est une forme de reconnaissance du couple.
Mais ça, ça va très bien avec ton côté un peu parfois suranné, vieux jeu. T'aimes bien être, évidemment, contre les modes. Le mariage baisse, donc tu vas te marier. Et en même temps, un goût parfois pour des choses désuètes que t'as. Mais je vois pas ce que le mariage vient faire là-dedans. Tu peux t'engager auprès de la personne que t'aimes. Sincèrement, totalement, de manière inconditionnelle, sans avoir à signer un papier devant une tierce personne. Ça est très bien raconté par Brassens dans la chanson La non-demande en mariage.
Laissons le champ libre à l'oiseau, nous serons tous les deux prisonniers sur parole. Diable les maîtresses que qui attachent les cœurs aux queues des casseroles. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
Qu'est-ce qui a changé dans notre représentation du couple depuis le Pax, le déclin du mariage et en même temps la possibilité pour les personnes du même genre de se marier ?
Alors beaucoup de choses ont changé et en même temps, il reste des constantes.
Jean-Claude Kaufmann, sociologue, auteur de Sociologie du couple.
Aujourd'hui, on part de soi. Alors, c'est pas du narcissisme le fait de partir de soi, mais c'est le fait de vouloir maîtriser sa vie. C'est la nouvelle époque que nous vivons aujourd'hui. L'individu est au centre de son existence et veut prendre toutes les décisions, les meilleures décisions pour lui-même. En même temps, il rêve d'amour, il rêve même parfois de famille, d'enfants, etc. Donc, toute la question, ça va être comment combiner le fait de rester soi, de maîtriser son existence et de s'engager dans le couple et dans la famille.
Quelle forme y prend aujourd'hui cet engagement puisqu'on se marie moins ?
Alors l'engagement, justement, au début, on n'y pense pas. Les débuts de la vie à deux se font dans le présent. Il y a beaucoup d'histoires aujourd'hui qui commencent par des petites histoires, des rencontres qu'on a beaucoup de mal à définir. On ne sait pas trop, et c'est justement parce qu'on ne sait pas trop que ces rencontres ont lieu. Et puis là, très souvent, arrive un autre temps où on passe du présent au futur. on a envie de faire des projets, de s'engager, éventuellement de parler enfant. Alors, très souvent, ceux qui vont se marier, ça va être autour de la période où le désir d'enfant va arriver. Les deux marquent une espèce de rupture symbolique, de marquage symbolique. On veut justement s'engager. Il faut le dire, l'afficher, montrer aux autres que l'on a changé, proclamer ce souhait identitaire nouveau.
J'adore que tu aies le nez qui coule quand il fait 22 degrés. J'adore que tu mettes 1h30 pour commander un sandwich. J'adore la petite ride que tu as là quand tu me regardes comme si j'étais un dingue. J'adore qu'après avoir passé la journée avec toi, j'ai les vêtements tout parfumés par ton odeur. Et j'adore que tu sois la dernière personne à laquelle j'ai envie de parler avant de me mettre au lit. Et ce n'est pas parce que je suis seul et que c'est la Saint-Sylvestre. Si je suis là, moi, ce soir, c'est parce que quand on se rend compte qu'on veut passer le reste de ses jours avec une femme, faut pas traîner les pieds, il faut se lancer aussi tôt que possible.
Il y a quelque chose qui me fascine souvent, c'est que je vois des gens qui se fréquentent, qui disent se voir. Nous, on aurait dit,
sortir ensemble.
Comment se fait-il qu'il y ait autant de gens qui disent se voir et non pas être avec ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on a peur d'afficher un nouveau statut sur les réseaux sociaux ? J'en sais rien.
Tu te souviens, sur Facebook, on mettait en couple
sur Facebook, on mettait ça.
Mais
quoi.
Oui. Alors, je ne sais pas si tu as vu, il y a un terme en anglais maintenant, situationship.
Sabrina Erinjin, co-autrice de Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour.
Voilà, tu n'es plus en relationship, tu es en situationship. On est en situation. On ne sait pas quelle situation. Mais je pense qu'en fait, il y a une peur de l'engagement incroyable, mais de toutes parts. Hein. On n'a plus envie de s'engager dans quelque chose de trop contraignant. Et bien sûr que les relations humaines, elles sont contraignantes. Mais si ça met la personne plus à l'aise de dire « on se voit » que de dire « on est ensemble », pourquoi pas ? Puis, en même temps, peut-être que dire « on se voit », c'est accepter l'individualité de chacun. Alors que dire « on est ensemble », d'un seul coup, ça fait un seul « ensemble ». Et on n'a plus envie de ça ? Je sais pas. T'en penses quoi, toi ?
Moi, j'en pense que l'ambiguïté crée une insécurité qui peut rendre fou ou folle une personne, en fait.
Ouais. Alors, moi, je suis pas... Tu me dis « on se voit », ça me va pas, hein. Moi, je dis, attends, on fait quoi exactement ?
Quand est-ce qu'on rencontre tes parents ?
C'est un peu ça, genre, excuse-moi, j'attends ma bague du fiancé, mais que de fiancé, parce que je veux pas me marier, mais je veux quand même un diamant. Mais ouais, je suis très honnête sur mes relations, et je suis genre, ok, je demande pas à ce qu'on fasse notre vie ensemble, mais par contre, je demande à ce qu'on définisse ensemble les termes de notre relation. Et est-ce que ça veut dire que tu veux voir d'autres personnes ? Est-ce que ça veut dire que tu t'attaches à moi quand même ? Est-ce que ça veut dire que t'attends mieux que moi ? Parce que moi, on se voit, ça... pour moi, hein, perso, hein, ça veut dire, écoute, en attendant, tu fais le job, mais j'attends mieux que toi. Tu te souviens, à l'époque, quand tes copines, elles te disaient, ouais, j'ai rencontré un barman. Et tu disais, oh là là, surtout pas. Le barman, c'est non. Tu sais, c'est le barman ou le chanteur d'un groupe ou quoi. Parce que tu disais, le gars, il rencontre des meufs différentes tous les soirs. Donc, il va forcément pas être convaincu par toi et il va toujours être dans l'attente de mieux. Donc, non, n'y va pas. Aujourd'hui, ils sont tous barman. Ils sont tous chanteurs ou je sais pas quoi. Ils sont sur les applications de rencontre. Et ils sont toujours dans l'attente de mieux. Nous, on accepte la difficulté, on accepte l'engagement. Et eux, ils sont là à se dire, si elle, je l'ai eue, peut-être je peux avoir 20% mieux.
Dans mon bureau, un grand poster d'Elizabeth Taylor et Richard Burton, enlacé sur le tournage de Cléopâtre. Elle, 8 mariages au compteur. Lui, 5. Des mariages hollywoodiens, on pourrait en citer à l'appel. Mais leur signe distinctif, c'est qu'ils se sont mariés 2 fois ensemble et qu'ils ont donc divorcé 2 fois. Et je me rends compte que le couple Burton-Taylor a complètement façonné mon imaginaire amoureux. Moi aussi, j'ai envie d'être enlacée comme une reine d'Égypte. Est-ce que tu crois pas quand même, C'est peut-être complètement antiféministe et complètement opposé à mes convictions les plus profondes. Mais est-ce que tu crois pas quand même que le mariage, ça protégeait les femmes d'une certaine façon? Parce que de fait, dans la plupart des couples, c'est quand même les femmes qui mettent leur carrière, entre parenthèses, au moment de l'arrivée d'un enfant. Là, on se fait avoir dans tous les sens, quoi. Au moment de la rupture, il faut qu'on soit complètement autonome financièrement. Sinon, on ne quitte pas son mari, si on n'est pas autonome financièrement. Il faut qu'on assume la plupart des tâches parentales. Là, maintenant, on a quand même l'impression que c'est tout bénef pour vous. Vous vous engagez pas. Bah non, on se marie pas, on s'en fout et tout ça. Et allez-y, démerdez-vous. Ah tiens, j'en ai trouvé une plus jeune, alors finalement, je m'en vais. Franchement, on se retrouve en carafe, toute seule, sans aucune sécurité, ni financière, ni rien, quoi. Le mariage, c'était pas si mal. Moi, je suis pour une réhabilitation féministe du mariage. Personne veut me suivre, mais moi, je suis pour. Là, vous avez le beau rôle, quand même. Vous êtes dans une société où on vous demande plus de vous engager.
Qu'est-ce que tu veux me demander? Je te réponds oui. Deux fois oui. Oui à ta question et oui à ta demande.
Je t'appelle parce que je pense que ta vision du mariage est biaisée. Et à mon avis, c'est dû au fait que toi, t'es protestante, 100% protestante, si je me trompe pas. Alors que moi, je suis moitié protestant, moitié catholique. Et je peux te dire que si chez les protestants, le mariage n'est pas un sacrement, chez les catholiques, en revanche, il l'est. C'est même d'ailleurs pour ça que Don Juan est damné. Donc ce que je te propose, c'est d'aller te faire voir chez les catholiques pour me dire un peu si Dieu est en déconstruction.
Chez les protestants, le mariage n'est pas un sacrement. En clair, c'est pas l'affaire de l'Église, quoi. Personnellement, je n'ai aucun compte à rendre devant Dieu, en tout cas pas sur ce point. Mais chez les cathos, c'est une autre histoire. On prononce des vœux d'éternité. Bref, on n'a pas intérêt à se planter.
Est-ce que le mariage, c'est une cause qu'il faut défendre? Est-ce que c'est presque quelque chose qui relève du politique, finalement?
Est-ce que c'est une cause? Alors, je ne voudrais pas rentrer dans une forme de militantisme pro-mariage. Je dirais, pour moi, c'est un idéal.
Denis Moreau, professeur de philosophie à l'Université de Nantes.
Je ne sais pas si ça, c'est un concept qui vous convient aussi. C'est un idéal, c'est-à-dire, je trouve l'idée de deux personnes qui, par amour, se choisissent et décident d'essayer de passer leur vie ensemble en étant toutes les deux aussi heureuse que possible. Je trouve ça beau, je trouve ça moteur. Pour moi, ça a été motivant, ça l'est toujours. Et donc, c'est une idée que j'ai envie de défendre. Et puis, il y a peut-être un sens plus négatif de l'idée de défense, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que le mariage est fragilisé. Bon, ça, à nouveau, pas de jugement de valeur, mais les statistiques le disent. Hein. C'est le nombre des séparations et des divorces a explosé depuis les années 1970. Et donc, peut-être qu'on a à le défendre comme on a à défendre une belle chose un peu fragile, un château de sable contre la marée qui monte.
En quoi c'est un problème qu'il y ait un déclin finalement du mariage ou qu'il y ait autant de séparations?
Oui, c'est une bonne question. Alors pour moi c'est un problème parce que je vois que ça... Enfin, généralement quand même ça se passe quand il y a séparation, elle est précédée, elle s'explique par un certain nombre de passions tristes, dire Spinoza. C'est-à-dire, on voit bien que les gens sont malheureux. Quoi. Ils sont malheureux. Alors, ils sont malheureux avant la séparation, et c'est parce qu'ils sont malheureux qu'ils se séparent. Et puis, souvent, ils sont malheureux de la séparation. Enfin, j'ai l'impression que les gens avec qui j'ai pu en parler, c'est quand même peut-être pas dans tous les cas, mais dans bien des cas, quelque chose qui est vécu de manière extrêmement difficile, qui entraîne des difficultés. Alors, psychologique et affective sûrement, économique aussi. Quand ça dysfonctionne et que les gens sont malheureux, à mes yeux, c'est un problème. Oui, alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu fleur bleue, un peu facile, mais j'aime pas voir les gens malheureux. Oui. Ça m'attriste.
La question que je me posais en vous lisant, c'est est-ce que finalement, le divorce, ça concerne l'ensemble de la communauté? Bon. Ou le mariage, par oui. ailleurs, les deux?
Alors, c'est un acte public, hein. Le mariage plus que le divorce. Enfin, le mariage, c'est qu'en France, ça ne peut avoir lieu qu'à la mairie. C'est ouvert à qui veut y assister. C'est un engagement qu'on prend devant l'État, enfin, en s'engageant à appliquer les articles du Code civil, où l'État fait un peu la morale. L'article 212 du Code civil, à la mairie, vous vous promettez fidélité, respect mutuel, secours et assistance. Vous vous promettez fidélité
ça va quand même pas de soi. On peut très bien imaginer des couples qui choisissent de ne pas vivre en étant fidèles l'un à l'autre, etc. Ça existe. Là, c'est l'État qui vous demande de vous promettre fidélité. Donc quand on dit que l'État fait pas la morale, c'est pas si sûr.
C'est un simple constat que j'ai fait et qui m'a un peu étonné, c'est que je me suis marié à la mairie et j'ai essayé de faire un tout petit peu attention à ce que je faisais. Donc avant de me marier, j'ai lu les articles du Code civil sur lesquels on me demandait de m'engager. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est assez court. Et à aucun moment, il est question d'amour. Le mot n'est pas prononcé. Donc on s'engage à des choses quand on se marie à la mairie, mais il n'est pas supposé comme condition nécessaire qu'on s'aime au préalable et on ne s'engage pas à s'aimer. La mairie, c'est un quart d'heure, un petit air de musique au début, la quête pour les œuvres de la mairie à la fin, et hop, on passe au suivant. Bon, je trouve que la République gagnerait à mettre un peu plus d'apparat dans cette affaire-là. Je suis catholique aussi, et donc je me suis, après m'être marié à la mairie, marié à l'église. Et alors là, ça dure plus longtemps. Là, on m'a demandé si j'aimais ma femme. On m'a fait promettre de l'aimer d'essayer de l'aimer pour la vie, etc. C'était tout de suite. Donc, ça m'a frappé la différence des deux univers de discours. Et la grande affaire, alors je le dis en jargon catholique, et puis on traduira après, indissolubilité. Donc ça, c'est, si je le dis en bon français, ou en bon anglais, ça veut dire que le mariage catholique, c'est un one shot, hein, y a un coup. C'est une règle dure, ça. Aujourd'hui, on peine à comprendre, mais donc voilà, on se marie. Une fois, alors ça ne veut pas dire l'Église reconnaît tout à fait la possibilité des séparations, mais l'Église catholique, à la différence d'autres églises chrétiennes, n'admet pas le remariage. Il n'y a pas de seconde chance.
Pourquoi ?
Parce que c'est Jésus qui l'a dit. Ça vous fait rire, je vous assure que c'est la bonne réponse. Parce que ça figure dans la Bible, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le défasse pas. Mais je conçois que nos auditeurs trouvent cette réponse un peu courte, alors je vais essayer de développer un peu. Moi, ça m'a aidé, en fait, dans ma vie de couple. Quand je me suis demandé, est-ce que, après tout, la séparation ne serait pas une possibilité ? Oui, c'est des questions, je ne veux pas rentrer dans les détails de ma vie personnelle, mais en 30 ans de mariage, on les rencontre forcément à un moment ou à un autre. Hein. Et là, il y avait cette idée que je m'étais engagé à faire vraiment tout mon possible pour que ça dure autant que possible. Quand je regarde l'allure générale du parcours que mon épouse et moi avons suivi, j'en suis heureux. Je me dis, c'est pour le moment une des choses pas trop mal que j'ai faites dans ma vie.
Donnez-moi une raison de croire au mariage aujourd'hui en 2022. Faites-moi envie.
C'est pas si simple. C'est pas si simple. Je dirais les vieux couples. Alors, ils sont tout vieux, tout mal foutus, malades, ils sentent la lavande, les mamies ont les cheveux bleus, là, et lui, il a une canne et tout, mais ils sont là tous les deux, on les sent complices, heureux d'être ensemble. C'est des gens qui, en un sens, ont réussi à faire l'amour, au sens de tisser, engendrer, fabriquer l'amour au long de leur vie.
Moi, je suis pas complètement convaincue, à part le vieux couple. Votre dernière carte, j'y crois pas complètement.
Je peux vous la refaire autrement.
On se fait une version alternative.
Alors, je vais vous la faire courte. Ça rend heureux.
Pas tout le monde.
Non, certaines personnes. Mais si vous connaissez un état de vie qui rend heureux tout le monde, vous me prévenez.
On nous parle des phéromones, mais on se rend compte quand même pas par hasard. Il y a quand même une forme de déterminisme social dans cette affaire. Il y a une vraie même homogamie. Regarde, si tu prends notre exemple, on gagne à peu près la même chose, on a à peu près le même niveau d'études, on fait tous les deux le même métier, t'es documentariste, je suis documentariste. Je peux pas imaginer que tout ça, ce soit purement le fruit du hasard, même si nous, on a envie d'imaginer que c'est ça, qu'on s'est rencontrés un matin en prenant un café, c'est ce qui s'est passé. Mais la réalité, c'est que ce qui fait que ça a continué et que c'est allé au-delà de « bonjour, ça va, vous travaillez sur quoi en ce moment ?»« Bah moi, je travaille sur ça. Ah, merci, bonne journée. » Ce qui fait que la relation va au-delà, c'est quand même cette reconnaissance, ce côté familier, en fait. On vient du même milieu social. Et on a beau, toi comme moi, être super militant, genre « ouais » et tout ça, il n'empêche que toi comme moi, on ne se marie pas ou on ne se met pas en couple avec des gens qui ne sont pas pratiquement du même milieu social que nous, quoi. Donc on est quand même des gros imposteurs, hein, à tous les niveaux. On est des imposteurs et de l'amour et du militantisme, tu crois pas ?
Mais c'est clair. Et on dit de toute façon que les gens se rencontrent à 80% sur leur lieu de travail. Nous, en fait, on s'est rencontrés un peu sur notre lieu de travail, sachant que notre lieu de travail, c'est les cafés, les tout ça, où on réfléchit.
Le mariage, c'est, pour l'immense majorité des gens, c'est une alliance de biens et de conditions au sens de conditions sociales.
Michel Bozon, sociologue à l'Institut national d'études démographiques.
Dans l'aristocratie, il est extrêmement important de ne pas se mésallier, sinon on y perd de l'honneur, on y perd du prestige. C'est de la politique des familles, c'est pas d'amour qu'il s'agit. On va avoir préparé tout ça en faisant en sorte que les jeunes fréquentent des gens du même milieu, hein, c'est les fameux rallyes du 16e arrondissement, où ils sont obligés de se recevoir entre familles, et ils rencontrent toujours les mêmes gens. Voilà, donc on fait en sorte que le patrimoine aille avec la sociabilité et implicitement avec l'amour. En revanche, dans les classes ouvrières, où il n'y a pratiquement pas de patrimoine, les choses sont plus libres. Ouais.
J'ai cru qu'enchaîner les relations pourrait me faire oublier. Et mes rencontres sont vides comme le désert. Dis-toi que j'imaginais même trouver un peu d'inspiration. Résultat, je reste devant ma feuille blanche pendant tes heures. Une centaine de matchs.
Depuis 2000, il y a eu ce qu'on appelle une révolution numérique. Les sites de rencontres, les applications de rencontres. Bon, donc de nouvelles manières de se rencontrer qui développent très largement un segment du marché matrimonial qui avait toujours été très secondaire, très petit, l'univers des agences matrimoniales, des clubs de rencontres, qui n'avaient jamais représenté de très nombreuses rencontres, voire les petites annonces du Chasseur français ou d'autres revues. Et là, avec la révolution numérique, d'un coup, ce type de rencontre par intermédiaire explose brusquement.
On aurait pu croire que les applications et les sites internet allaient faire justement sauter cette homogamie, puisqu'on y est tous. Tout le monde fréquente à peu près le même site. Sur Tinder, il va y avoir toutes les catégories sociales qui vont être mélangées. Et pourtant, au final, parce qu'il y a cet échange, on va quand même checker nos compatibilités sociologiques avant de faire couple, finalement. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas vraiment de cette homogamie.
Bien, on peut dire que, à travers les échanges à distance qui se font par les applis, par les sites, eh bien, l'homogamie se construit. C'est plutôt ça. C'est que il s'agit, dans un premier temps, d'éliminer les indésirables. Et ça, c'est pas difficile. Hein. Il suffit d'appliquer quelques critères simples. Puis, il n'y a même pas besoin de les appliquer. On les sent. Par exemple, pour des jeunes femmes, on va dire à bac plus 5, les problèmes d'orthographe chez les correspondants, c'est un énorme problème parce que ça situe socialement quelqu'un.
Le prénom également.
Alors, les prénoms sont toujours extrêmement classants socialement en France. Des fois, il n'y a pas le vrai prénom, hein, mais peut-être que le faux n'est pas mieux.
Moi, à un moment, j'ai cru que la manière de sortir de cette endogamie sociale, c'était d'aller sur les applis. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les applis, à la fin, on finit par aller avec des gens qu'on aurait pu rencontrer dans la vraie vie, IRL, comme on dit. Alors, c'est marrant, moi, tout particulièrement ces derniers temps, j'approche de la cinquantaine, j'ai une petite mèche blanche, etc. Mon profil marche énormément. Et je me suis dit que c'est
retrouvez-le à Tancred.
Non, mais je me suis dit, c'est parce que je dois avoir un côté Georges Clooney, tu vois, être un peu une espèce de devenir un, peut-être me conformer à un archétype et tout. En fait, c'est très normé, quoi. Et toutes les disqualifications de classe, de culture, de couleur, etc., etc., peuvent se mettre en place là-dedans. Et donc, une sélection radicale qui se fait, finalement, inconsciemment de la part de tout le monde, mais qui s'exprime et qui fait que les suffrages sont concentrés sur quelques profils en ce qui concerne les choix des femmes.
Et ta superficie sociale, comme ça, elle se reconnaît comment, quels indices sur ton profil? Tu dis quoi que
non,
tu
je
donnes
mets
ton métier?
Non,
tu...
je ne mets pas mon métier, mais...
Tu donnes ton salaire?
Non, mais ni le salaire, mais je pense que ça se voit aux photos, donc aux décors dans lesquels on est pris, à nos activités, à notre manière de s'habiller, à nos centres d'intérêt, ça dit, en fait, ça décrit tout. Enfin, Bourdieu l'avait raconté, évidemment. Tout est décrit en filigrane, sans que ça apparaisse, mais tout est dit. Là, on sait, en gros, la CSP à laquelle on a affaire.
Il y a comme un rêve aujourd'hui qui est de rester soi-même, de rester maître de sa vie, mais de pas rester seul. Rester soi-même, mais rajouter l'autre dans la vie. Rajouter l'autre sans qu'il dérange de trop. Donc la solution un petit peu rêvée, c'est de trouver une personne qui nous ressemble complètement. Donc cette personne, elle va être dans le même milieu social, avoir les mêmes goûts culturels. Alors ça, c'est pour l'engagement à long terme. Et en même temps, il y a un petit peu le contraire dans les esprits. Un rêve de surprise, de dépaysement, de cosmopolitisme. Mais ça, c'est plutôt pour la rencontre d'un soir ou d'un peu plus, la petite histoire, l'aventure qui va faire frissonner, qui va faire rêver. Et dans cette aventure, c'est pas toujours exactement la même silhouette, le même rêve que l'on a par rapport à l'engagement dans la longue durée.
Tu veux que je te fasse ma déclaration, ma demande en mariage?
Vas-y.
Donne-moi le 06 de beau-papa, je vais l'appeler.
Ok, donc je vais passer de la propriété de mon père à la propriété de mon futur mari, c'est très bien.
C'était « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Pour une nuit ou pour la vie. Avec Denis Moreau, Michel Bozon, Jean-Claude Kaufmann et Sabrina Heringer. Et tout de suite, un nouvel épisode de « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Après de multiples mariages, divorces, pacs, dépacs, me voilà de nouveau seule, à 42 ans. Je dirais pas que ça m'angoisse, parce que toutes ces unions et désunions m'ont refroidie pour un moment, on peut pas dire que je sois prête à remettre le couvert, mais quand même, 42 ans et déjà une famille, pas sûr que je vaille grand-chose sur le grand marché du couple. Et toutes les statistiques me donnent raison. Refaire sa vie quand on est une femme, c'est affronter 1000 obstacles et c'est surtout faire le deuil de l'image idyllique de la relation. c'est abandonner la petite princesse en nous qui rêvait d'amour parfait et qui aujourd'hui est bien fatiguée. Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Béressi. Épisode 4, refaire sa vie.
Est-ce qu'on a plus de chances de refaire sa vie quand on est un homme que quand on est une femme ? Est-ce que c'est toujours vrai, ça ?
Refaire sa vie, c'est une drôle d'expression. Parce que, en fait, on continue sa vie toujours. Hein.
Alors, disons d'avoir accès à une seconde union.
Est-ce qu'on a forcément envie d'avoir accès à une seconde union après en avoir connu une première pas forcément agréable ? Pas forcément.
Michel Bozon, sociologue à l'Institut national d'études démographiques.
On s'aperçoit qu'en effet, les hommes vivent plus souvent une seconde union et plus rapidement que les femmes. Les femmes continuent leur vie sexuelle aussi. Hein. Bon, les deux d'ailleurs. Hein. Bon, c'est pas. Mais il est possible que certaines femmes, tout en ayant un partenaire, ne vivent pas avec lui parce qu'elles ont la garde des enfants. Hein, par exemple, et préfère vivre sans avoir une cohabitation avec un second homme.
Donc vous mettez ça plutôt du côté de la préférence et pas de la difficulté finalement de rencontrer quelqu'un quand on a déjà soi-même la garde des enfants.
On pense souvent les pauvres femmes qui ne rencontrent personne. Moi, je dis qu'elles rencontrent des gens, même sexuellement, mais qu'elles n'ont pas forcément envie de former un couple avec elle. Mais en tout cas, aucun doute, si elles se mettent en couple, ça leur prend plus de temps que les hommes. Comme si les hommes, c'était eux qui vivaient le plus mal la situation et qui peut-être avaient à ce moment-là le plus de choix en termes d'âge des partenaires. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de mettre en concurrence des femmes d'âge différent.
Et puis, ils ont plus de liberté aussi. C'est-à-dire que s'ils subissent un divorce, eux, en fait, ils vont quand même avoir le loisir de reconstruire leur vie parce que c'est leur ex-femme qui va s'occuper des enfants. C'est pas eux, on le sait.
Sabrina Eringine, co-autrice de « Nos amours radicales, 8 visions singulières pour porter un regard nouveau sur l'amour ».
Donc eux, ils vont avoir beaucoup de loisirs, beaucoup de temps à papillonner, à être dans cette liberté. Et ça crée un déséquilibre énorme parce que derrière, si on a la femme du même âge, qu'est-ce qui se passe ? Elle va avoir des enfants, elle aura divorcé aussi. Et elle va devoir s'en occuper, elle va pas pouvoir papillonner comme eux. Donc eux vont avoir l'opportunité de se reconstruire une vie. Pendant que nous, les femmes, on va être là... on est bonne à jeter, qu'est-ce qui se passe ? Peut-être on se prend un soixantenaire quand on en a 40, on a l'impression que c'est un peu ça, quoi. Et puis on le voit encore aujourd'hui, les couples autour de nous hyper glamourisés, comme je pense à Vincent Cassel ou Leonardo DiCaprio, qui adorent les femmes bien plus jeunes. C'est quelque chose d'admis. Et moi, quand j'en parle sur Instagram, j'en parle beaucoup des différences d'âge comme un moyen de dominer les femmes. On me reproche d'être contre l'amour. Non, au contraire, en fait. Moi, je suis pour l'amour, mais l'amour, ça peut se jouer que sur un terrain d'égalité. Ça peut pas se jouer dans un terrain où quelqu'un a plus d'ascendant que l'autre. C'est pas possible, en fait. Ou alors, il faut vraiment qu'on travaille activement là-dessus. Les hommes, ils travaillent pas beaucoup activement à l'amour.
Révolutionner l'amour, non. Voilà. Pas des masses.
Donc, non. Remettre en considération leur domination sur les femmes, ça s'est pas beaucoup vu ces derniers temps.
Toi qui as un pied dans la tombe, fais gaffe où tu poses la main. Si elle glisse, si tu tombes, sur une peau de vache, c'est pas malin. Jeunes femmes et vieux messieurs, si elles n'ont pas d'amour, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, de l'amour, ils en ont pour deux.
En France, pour 6 couples sur 10, l'homme est plus âgé que la femme. et dans seulement un couple sur 10, l'homme est plus jeune. Cette histoire d'écart d'âge au sein du couple hétérosexuel, on n'en sort toujours pas.
Quand tu iras la décoiffer, jeunes femmes et vieux messieurs, s'ils n'ont plus de cheveux, quelle importance. Jeunes femmes et vieux messieurs, des cheveux, elles en ont pour deux.
L'écart d'âge, d'abord, ça se voit qu'on n'en sort pas. C'est-à-dire qu'avec l'âge, les hommes vont demander de plus en plus des femmes plus jeunes et moins des femmes plus âgées, alors qu'ils n'y étaient pas opposés étant plus jeunes. Et dans les secondes unions, les écarts d'âge s'accroissent en faveur des hommes. Et encore plus dans les unions à des âges avancés, hein, bon, 50, 60, 70, hein, bon, où là, il y a des écarts beaucoup plus importants qui se mettent en place. Hein, bon. Alors, comment expliquer ça? Alors, pour les jeunes âges, donc, un peu paradoxal, c'est peut-être plutôt les femmes qui recherchent des hommes un tout petit peu plus avancés, quand même, parce que c'est plus sûr. Et les hommes, dans ce cas-là, se laissent faire un peu. Et ensuite, les choses se renversent. C'est les hommes qui prennent un peu le pouvoir, des hommes qui veulent refaire leur vie, vont chercher des femmes qui n'ont pas encore complètement fait leur vie pour faire des enfants avec elles. Et puis, les femmes sont vraiment désolées, enfin, en tout cas celles qui cherchent à faire des rencontres, désolées de ne pas arriver à trouver de personnes plus proches d'elles par l'âge. Elles les cherchent activement. Les hommes qui ont le même âge qu'elles vont chercher beaucoup plus jeunes. Donc, c'est un aspect de domination, de hiérarchie, et le fait aussi que les femmes qui cherchent sont beaucoup plus nombreuses que les hommes. Il y a moins d'hommes disponibles. Les hommes restent en couple le plus longtemps possible. Donc, il y a peu d'hommes disponibles. Donc, ils ont d'une certaine manière le choix entre, là encore, beaucoup de femmes. Donc, ce qui n'arrange pas les choses pour elles, il faudrait qu'elles puissent trouver des hommes plus jeunes, qu'elles osent les demander, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils vont les choisir.
L'écart d'âge au sein du couple est intimement lié à notre représentation économico-sexuelle de la relation. Car la jeunesse est un capital qui permet aux femmes qui le souhaitent de mettre la main sur un bon parti. Et ça non plus, on n'en sort toujours pas.
Ah mais t'as retrouvé le texte sur le continuum des échanges économico-sexuels, c'est ça?
Tancrède Ramonet. Ouais, c'est ça, regarde, c'est dans le livre de Delphine Chedaleux. T'as cet extrait là de Dallas qui est génial. Bon, alors, donc toi tu fais sous Hélène?
Non, moi je fais Patricia.
Non, tu rigoles. Non, moi je joue pas sous Hélène. Sous Hélène, c'est la méchante. Il est hors de question que je joue sous Hélène.
Non, donc Patricia, c'est la mère Ewing. Donc elle est plus âgée. Donc c'est moi qui fais Patricia.
Non, c'est moi qui fais Patricia. Allez hop, c'est toi qui fais sous Hélène. C'est bon. Parti. Alors, donc Patricia.
Sérieusement, hein, attention.
Je suis pas très bonne actrice, hein, donc. Je ne m'attendais pas à te voir ce soir. JR est venu ce matin.
Il a dû te demander où j'étais.
En effet, oui.
Tu ne vas pas te décider à parler de ma valise, maman.
Ta valise? Elle a certainement coûté une fortune.
Oui, c'est une valise qu'on ne peut se payer qu'en étant marié à un homme très riche.
Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal à être marié à un homme très riche.
Et pourtant, tu as tort quand cet homme se trouve être J.R. Ewing.
Ne dis pas ça. Regarde tout ce qu'il a fait pour toi.
Moi, en fait, ce que je regarde, c'est tout le mal que tu t'es donné pour que je devienne la femme parfaite pour lui.
Et j'ai réussi. Après la mort de ton père, j'ai consacré ma vie à cette réussite. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't be the rattle on your humble flat, or help you out the automat. Autour de moi, paradoxalement, j'ai pas mal de copines féministes qui considèrent que se trouver un mec riche, c'est un juste retour des choses dans la mesure où il y a une inégalité salariale toujours persistante, que voilà, les femmes ont moins de ressources que les hommes. Et ben j'ai quand même encore des copines féministes qui disent ben non, finalement prendre sa revanche sur le patriarcat, ça reste encore de se taper un mec pété de thunes pour pouvoir le plumer jusqu'au bout. Et finalement, la transaction économico-affective ou économico-sexuelle, elle est plus claire comme ça, ainsi, où tu dis, bah oui, moi je me cherche un bon parti pour me mettre à l'abri.
Non mais qu'on plume qui ? Il y a des gens qui pensent qu'en relationnant avec des hommes, elles plument les hommes.
Manon Garcia, philosophe, autrice de « La conversation des sexes, philosophie du consentement ».
Parce que ça se passe jamais comme ça, hein. Même si on utilise leur argent, c'est rien par rapport à tout ce qu'on donne en échange.
Oui, c'est sûr, c'est un mauvais calcul sur le long terme, hein, ça c'est sûr.
C'est un mauvais calcul sur le long terme, surtout quand on voit les chiffres sur les séparations, quand c'est la femme qui est malade versus l'homme qui est malade. Enfin, c'est effarant, je crois que c'est un truc comme 5% des couples mariés où l'homme a un cancer se séparent à la suite du cancer. 95% des couples mariés ou 90% des couples mariés où la femme a un cancer se séparent à la suite de ce cancer. Tellement les hommes, ils veulent pas prendre soin de leurs épouses et des femmes. Donc c'est un mauvais calcul, hein, le couple hétérosexuel. En plus, vraiment, toutes les études de sociologie montrent que les femmes qui ne sont pas en couple hétérosexuel sont globalement plus heureuses. Les études de satisfaction sexuelle montrent que les femmes lesbiennes sont beaucoup plus satisfaites sexuellement que les femmes hétérosexuelles. En gros, les gens qui sont satisfaits sexuellement, c'est les hommes homos, les hommes hétéros, les femmes lesbiennes. Et puis ensuite, il y a un groupe à part vraiment de dissatisfaction sexuelle, c'est les femmes hétérosexuelles. Donc c'est un mauvais plan de vivre avec des hommes pour en tirer des bénéfices cyniques.
Attention, je vais dire quelque chose, je vais dire des gros mots, hein, mais existe intrinsèquement dans une espèce de psychologie de beaucoup de femmes sur le désir d'un homme puissant, protecteur, parce que c'est ça, l'argent c'est la protection.
Camille Emmanuel, autrice de « Lettre à celle qui lit mes romans érotiques et qui devrait arrêter tout de suite ».
Je pense qu'il y a à la base en fait une attraction pour une masculinité protectrice et puissante, etc. Mais avec un truc très de survie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une époque où il valait mieux pouvoir nourrir ses propres enfants et soi-même pas mourir de famine, quoi. Donc, cette attirance pour le prince charmant vient aussi à un moment donné d'une époque où, en fait, c'était aussi une question peut-être de survie. Sauf qu'aujourd'hui, il y a quand même des études qui montrent que la violence conjugale est associée avec la figure du mâle alpha. Plus on va être en couple avec un homme physiquement et socialement dans un truc d'alpha, de pouvoir, etc., plus il y a de risques, en fait, de violence. Donc, en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de jeter, là, des millions de jeunes femmes en disant « Allez vers ces hommes-là !» Et en fait, non, il faut aller vers des hommes qui ont fait un travail sur les questions de virilité, puis peut-être qu'on a des centres d'intérêt moins basé sur le pouvoir et sur la thune et sur le fait de dominer et le monde et la planète et les femmes, quoi.
Moi, je suis toujours un peu perplexe. D'un côté, je comprends sur le papier, et d'un autre côté, ça me laisse un peu perplexe parce que ça continue aussi à créer des inégalités dans le sens que, je sais pas, les mecs ouvriers ou les mecs agriculteurs, ils sont encore, ou les mecs chômeurs, ils font encore partie des catégories de laissés pour compte dans la société et de ceux qui sont les plus célibataires, en fait.
J'ai une petite frange d'amis, hommes, qui, en ce moment, c'est autour de moi, justifient le fait qu'ils vivent au crochet de leur nana par leur féminisme, en expliquant que ben non, en fait, c'est bien, c'est elle qui assume les responsabilités, tout ça, c'est elle qui... Et d'ailleurs, et que c'est même la preuve de leur féminisme à eux, que justement, ils ont décidé que c'était pas eux qui contrôlaient, c'était pas eux qui avaient l'argent, c'était pas ça. Et eux, ils vivaient en ne faisant rien ou presque. Et je trouve ça spectaculaire. Alors, je pense que c'est pas des miroirs inversés, parce que je comprends l'argument que tu disais dans... disons, une stratégie un peu de révolte et d'émancipation. Je le crois beaucoup moins de la part des mecs qui veulent vivre au crochet de leur femme en expliquant qu'ils sont féministes. Je pense que c'est vraiment une des stratégies un peu qu'on appelle, en espagnol, on dit des chulos. C'est vraiment le proxo. Ils ne font que reproduire des vieux comportements. Finalement, de gagne petit. Vivent au crochet de leur meuf, quoi. Avec les meufs qui assument toute la charge mentale et tout ça, mais qui, en plus, va assurer les revenus du foyer, quoi.
Papi, papi, ven a mí, papi, papi, papi chulo, papi, 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 ven a mí.
j'avoue que la perspective du chulo, ça m'emballe pas. Me taper toutes les contraintes de l'hétérosexualité et me faire plumer en prime, non merci, j'ai déjà donné. Mais si on se fait avoir, si c'est si décevant, pourquoi est-ce que ça prend tant de place dans notre vie ?
Je crois que c'est ça le problème de beaucoup de femmes, c'est qu'elles aiment vraiment beaucoup les hommes et que, en dépit de tout, elles relationnent avec des hommes. Après, ce qui est si difficile, c'est que l'amour, ça apporte tellement de joie, au début en tout cas. Il y a un truc, la vie est transfigurée par l'amour. C'est une expérience que j'ai la chance de faire au quotidien parce que je suis pour l'instant dans une relation où l'amour se paye pas cher, il rapporte plein de joie. Le monde entier a une couleur plus joyeuse, la vie scintille de mille feux. Donc le problème, c'est ça. Si ça n'apportait pas autant de bonheur d'aimer quelqu'un et d'être aimé de quelqu'un qu'on aime, ce serait plus simple. Beauvoir, elle dit dans Le Deuxième Sexe un truc très juste, c'est qu'elle dit que l'amour n'a pas le même sens pour les hommes et pour les femmes. Que pour les hommes, il est une chose parmi d'autres de leur existence, alors que pour les femmes, enfin, c'est pas tellement qu'elle dit que c'est toujours le cas, mais elle dit que les femmes sont invitées à penser que l'amour est l'essentiel de leur existence. Et que, évidemment, c'est l'occasion d'une oppression. Mais si on dit, bah, l'amour, c'est une partie de ce qui donne du sens à notre vie, et que de le concevoir comme l'essentiel, ça risque de nous fragiliser, de nous mettre dans une position de très grande vulnérabilité, renforcée par des vulnérabilités économiques, sociales, etc. Et donc, il faut s'efforcer que ça ne soit pas le cas, il faut s'efforcer de ne pas faire de l'autre notre alpha et notre oméga, etc. Là, c'est peut-être une façon de repenser l'amour, en fait. De dire, pour détricoter le lien entre amour et oppression, il faut essayer de penser l'amour comme le pensent les hommes.
Le prince charmant, c'est simplement les femmes. Les hommes n'ont aucun rêve qui ressemble à ça de près ou de loin. Hein. Bon, donc, le prince charmant, c'est pour moi le symbole même de la dépendance affective des femmes dans l'idéologie romantique traditionnelle. C'est-à-dire l'idée qu'il y a un homme. Dans l'idéal même, c'est un seul, en fait. Il y a un homme qui existe, qui va combler tous les besoins, bon, on va dire, insatisfaits, c'est-à-dire que les femmes sont incomplètes dans cette idéologie-là, qui va les compléter, mais effectivement, avec une perte de son indépendance. Hein. C'est dans sa dépendance à cet homme qu'elle va se réaliser. C'est un peu ça l'idéologie romantique du prince charmant. Alors, on a beau dire ça et le critiquer depuis des décennies, eh bien, ça revient toujours, hein, ce rêve-là. Alors, il y a une expression plus récente et qui est un peu moins connotée que prince charmant, qui est l'homme de ma vie. Et donc, on s'aperçoit que c'est une expression qui a l'avantage quand même qu'on peut la mettre au pluriel. C'est-à-dire que l'homme de ma vie, c'est quand on n'en a connu qu'un. Mais après, ça peut devenir les hommes de ma vie ou les femmes de ma vie.
L'homme de ma vie a des heures de vol, allongé dans les herbes folles. Lui et moi, on est à la colle. C'est pas toi, pourquoi tu t'affoles, l'homme de ma vie dans ton miroir. Tu peux le croiser tous les soirs.
Il y a deux mois, j'ai pris rendez-vous chez le chirurgien esthétique. Hein. J'étais genre, allez, c'est bon, je vais faire refaire mon nez, j'en peux plus. Puis après, je me suis dit, quand même, 5000 euros, ça fait beaucoup. Je les ai pas, en fait, c'est con. Donc, je l'ai pas fait.
Est-ce que ça s'est produit après une rupture amoureuse ou une déception amoureuse ? Parce qu'il paraît que statistiquement,
évidemment,
on pousse les portes du chirurgien esthétique quand on vient de se faire larguer ou éconduire.
Évidemment. C'était juste après qu'un crush m'ait hyper maltraité. Il paraît que je suis une fille extraordinaire. Mais vraiment, je suis extraordinaire. Voilà. Mais il n'y a pas le truc. Alors, je me suis dit, peut-être le truc, c'est mon nez.
Non, mais je ris, mais...
Non, mais moi, c'est pareil.
Un jour, j'ai voulu me faire refaire les seins parce que mon mari m'avait trompée, si tu veux. Donc, j'ai abandonné l'idée au bout d'une semaine.
Non, mais voilà.
Bien sûr,
voilà,
ce genre de choses arrive, évidemment.
Et c'est ça, et on se déteste. Et le temps qu'on passe à se détester, à quémander, parce qu'on quémande la validation des hommes pour exister, et pour se dire qu'on mérite d'être là et qu'on est des êtres à part entière, mais tout ce temps, on ne le passe pas à s'émanciper, en fait. Et en même temps, bah, c'est compliqué, parce qu'on s'émancipe comment ? Moi, je veux bien, hein, je suis restée célibataire 3 ans. C'était génial, hein. Ouais, j'étais hyper émancipée. Hein. Et pour le coup, j'étais mais Wonder Woman. Vraiment, rien ne m'arrêtait. C'est là où j'ai vraiment été le plus créative, le plus productive. Enfin voilà, c'était vraiment une période de ma vie où je me suis aimée. Mais vraiment, genre, personne n'a pu m'aimer comme je me suis aimée à ce moment-là. Quoi. C'était génial parce que personne ne pouvait m'atteindre et je me trouvais tellement badass. C'était trop cool. Sauf que... Bah, c'est con, mais y a un moment où tu te dis « Putain, je suis tellement badass que j'ai quand même envie de partager avec quelqu'un, en fait. » Et puis tu retombes dans les schémas dans lesquels tu croyais ne plus jamais tomber, où tu cherches cette validation des hommes, où tu cherches à tout prix à pas vieillir, à pas t'en les dire, où tu cherches la skincare routine du matin la plus efficace, où tu dépenses du coup 150 balles dans de la crème un soir juste parce qu'il y a un mec qui t'a dit non, tu me plais pas. Et que tu l'as pas supporté, parce qu'on est conditionné à ça, en fait. On est conditionné à être sensible au regard des hommes. Et c'est d'une tristesse. Mais ouais, le célibat, c'est une bonne façon de révolutionner l'amour. Mais je pense pas que ce soit pérenne. Ça marche, voilà, quelques années. Mais je crois qu'on est quand même des êtres fondamentalement amoureux. On aime ça, aimer. On a besoin de ça, aimer. Mais heureusement, on a nos amis, hein. Pour compenser un peu.
Au final, si c'est si pourri, pourquoi est-ce qu'on y retourne toujours ?
Ben parce que c'est super en même temps. Et je pense que... Enfin bon, c'est une comparaison à laquelle il faut faire attention par respect pour les gens qui galèrent vraiment avec ça, mais c'est comme de la drogue dure, c'est-à-dire que c'est super au début. Et qu'après, on ne cesse d'essayer de retrouver ce qu'il y a de si super au début. Je veux dire, la chanson d'un Souchon, « Passer notre amour à la machine pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir ». Mais c'est ça qu'on essaye tous et toutes de faire. C'est tout le temps de passer notre amour à la machine et de retrouver le moment où on oublie sa station de métro, où on se dit que c'est super, etc. Après, je voudrais quand même tempérer un peu ce que je dis moi-même. Avec le fait qu'il y a quelque chose de mauvais dans le fait de mélanger la passion et l'amour. Et que moi, une des choses que je trouve merveilleuse dans l'amour, c'est ce qu'on ne voit pas de l'amour, ce qui n'est jamais montré. C'est le quotidien, en fait. Et je me demande toujours pourquoi, dans une comédie romantique, etc. Enfin, je me demande pourquoi, j'ai une réponse, hein. Mais pourquoi ça s'arrête toujours au moment où ça commence, en fait ? Parce que l'amour, à la différence de la passion, c'est ce truc de se retrouver tous les jours et que ce soit vraiment, ou pas tous les jours pour des gens qui vivent pas ensemble, mais que dans la durée, ce soit une joie, que dans la durée, on construise quelque chose ensemble, un langage particulier, des joies, des souvenirs. Mais ça, en fait, c'est banal et lent. Et ça peut être heureux d'une façon qui n'est pas tellement montrable parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer. C'est juste que ça rend la vie plus douce et plus joyeuse à chaque instant. Ce qui est joyeux dans l'amour, c'est pas d'attendre un texto et que le texto arrive et qu'on débriefe avec les copines et qu'on ait des papillons dans le ventre, etc. En fait, ce qui, à mon sens, peut avoir de plus beau dans l'amour, c'est quand il n'y a plus les papillons dans le ventre, justement. Mais cet endroit-là, il est tellement vulnérable à la domination. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus les papillons dans le ventre, il faut passer l'aspirateur. Schöner, größer, härter, straffer, glatter,
stärker. C'était Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ? Refaire sa vie. Avec Michel Bauzon, Manon Garcia, Camille Emmanuel et Sabrina Erinjin. Von den Augen, Nase, Fräsen. Documentation Radio France, Antoine Vuillose. Prise de son, Thibaut Nassim-Ben.
Mathieu Tourin, Lucien Lefebvre, Guillaume Ledu, Alexandre Ducois et Claire Levasseur. Mixage, Manuel Couturier. Attaché de production, Marivonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Kervin. Une série documentaire d'Ovidie avec la participation de Tancrède Ramonet, réalisée par Julie Bérécy.
Implantate ins Gefräß und wir liften das Gesäß. Messertupfer voll Narkose, 7 Kilo Reiterhose und Bauchfett in die Biotonne. Der Penis sieht jetzt wie der Sonne. Zick, zack, zick, zack, schneid das ab. Alt. Deine Zeit läuft langsam ab. Wer schön sein will, der muss auch leiden. Aus und weg und abschneiden. Nadelfaden schwerlich, doch ohne Schmerzen geht es nicht.
Il était une fois une princesse qui devint amoureuse.
France Culture invite la féministe, réalisatrice et autrice Ovidie à déconstruire les codes amoureux. Pour LSD, la série documentaire, épaulée par son acolyte Tancrède Ramonet, elle tente de définir les multiples représentations romantiques qui envahissent notre époque.
Je me suis rendu compte que les hommes qui me plaisaient, ils étaient tous issus de la classe bourgeoise. Et je me suis dit, merde.
Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? Un podcast d'Ovidie, réalisé par Julie Bérécy sur franceculture.fr et l'appli Radio France.